Alors que depuis quelques semaines, les médias mainstream ne cessaient d'insister sur la situation catastrophique du Tigré, et ce, non pas parce que la situation humanitaire est, comme ces médias essayent de montrer, en mauvais état, mais plutôt parce que les miliciens de Tigré, financés et armés par l'ex-OTAN, étaient à court de fonds suite au retrait tactique de Mekele, sous l'ordre du premier ministre éthiopien, et l'interdiction d'acheminement de tout convoi envoyé vers cette région sous prétexte d'aide militaire. Ces rebelles, que l'axe anglo-saxon a tout fait pour armer et jeter à l'assaut du Tigré et qui, mis à part la campagne médiatique mensongère mainstream, n'ont réellement pas eu de très bon accueil auprès de la population, commencent à montrer leur incapacité à gérer un État. Cette fois-ci, ce n'est pas Israël ou les États-Unis qui s'ingèrent directement dans cette affaire, mais la France, cette girouette de l'ex-OTAN qui se dit préoccupée par les restrictions à l'acheminement de l'aide au Tigré. Voyons ce qu'en dit RFI. Emmanuel Macron se dit préoccupé face à la recrudescence des combats, notamment depuis la contre-offensive tigréenne et la mobilisation massive de miliciens dans la région voisine Amara, réveillant les craintes d'une guerre civile. Le président français a indiqué que la situation humanitaire très dégradée et le besoin d'acheminer l'aide aux populations du Tigré nécessitent des mesures fortes. Selon RFI, des centaines de camions du PAM ne peuvent pas y acheminer de nourriture, alors qu'il y a un mois déjà, la famine touchait une personne sur six dans la province. Selon l'ONU, 90% des habitants de la région vivent grâce à l'aide extérieure. Mais ce scénario qui consiste à armer les rebelles afin de déstabiliser le gouvernement et de s'infiltrer dans l'ombre dans un pays est du déjà vu. Cet ex-OTAN a reproduit exactement le même chemin en Syrie ou encore en Irak via des acheminements d'aide humanitaire à travers lesquels les terroristes ont été armés et préparés à mener de plus en plus d'attaques contre les civils. On se rappelle fort bien des attaques aux missiles balistiques contre l'armée éthiopienne dans la foulée de la visite du ministre israélien de l'immigration en Éthiopie, des attaques menées par des roquettes à longue portée et des missiles balistiques tactiques modernes sur le territoire éthiopien. Nul ne pourrait croire que ces armes soient conçues par les rebelles de Tigré. D'ailleurs, avertis par les réelles intentions de l'Élysée, cette demande d'ouverture a été rejetée par le ministre adjoint des Affaires étrangères éthiopien, selon qui elle s'apprête à une leurre de l'Occident pour en réalité livrer des armes rebelles tigréens, une accusation soulevée à plusieurs reprises par le gouvernement éthiopien. En fait, ce que chercheraient le Mossad et les autres puissances occidentales et alliées, c'est de déclencher une crise dans cette région de l'Afrique et de la transformer en une région, comme le Soudan du Sud, et donc d'avoir un tremplin pour d'autres projets divisionnistes à venir. Pourtant, les pays d'Afrique sont bien décidés à mettre en échec ces plans néocoloniaux et de s'unir pour mettre une bonne fois pour toutes les présences occidentales néfastes hors du continent. La Centrafrique se renforce de plus en plus et ne se plie pas face aux pressions de l'axe occidental. Résultat, cet axe néocolonialiste, plus agacé que jamais, remuciait les terres afin de mettre au pas Bangui, sans succès bien sûr. Lors de sa dernière démarche anti-RCA, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté jeudi 29 juillet une résolution plongeant d'un an l'embargo sur les armes imposées depuis 2013 sur la RCA, ainsi que l'interdiction de voyage et le gel des avoirs de certaines personnes et entités désignées par son comité des sanctions. Malgré ces pressions, cette armée a repris plusieurs villes à ses rebelles terroristes. Des instances occidentales, comme Amnesty International, ont fait des rapports blâmant l'armée nationale pour des prétendus crimes contre l'humanité. Les FACA ont fait leurs preuves à l'aide de certains partenaires internationaux et des alliances intra-africaines, la Centrafrique a triomphé contre l'offensive. L'Occident prétend vouloir œuvrer pour la paix en Centrafrique. Ce n'est pas en renouvelant l'embargo qu'elle le montre. Lors de l'assouplissement de l'embargo, la Centrafrique s'est tournée vers la Russie dans le but de faire renaître les FACA de ses cendres et ainsi sécuriser le territoire. La population centrafricaine, alors de nombreuses reprises, montrait sa joie de voir les FACA préserver la sécurité plutôt que de voir des militaires occidentaux laisser planer l'insécurité. Le gouvernement de Bangui continue d'œuvrer pour la paix et la stabilité du pays en coopération avec sa population. Ses forces ont récemment repoussé des attaques rebelles dans plusieurs stratégiques, des rebelles qui tentaient d'imposer un blocus de la capitale Bangui et de renverser le président Touadéra. D'où la colère de l'ex-US OTAN et cette récente attaque des groupes armés soutenus par l'Occident contre les forces armées centrafricaines, mais aussi des civils et même l'allié russe. Après tout, cet axe colonialiste a également échoué sur le plan politique, en effet, depuis les élections présidentielles et la victoire écrasante de Touadéra. L'ex-US OTAN a tout fait pour saper le dialogue républicain mis en place par le président Touadéra afin de stabiliser la situation et d'apaiser les tensions au sein de l'opposition. Bien que les médias mainstream insistent toujours sur un désaccord entre l'opposition et le gouvernement, Touadéra, mathématicien et intelligent qu'il est, contrôle très bien la situation. Un autre point à révéler dans cette résolution est que le Conseil a défini une série de domaines pour lesquels ces termes ne s'appliquent pas, par exemple, pour tout ce qui touche à l'assistance humanitaire ou à la livraison de provisions et de fournitures essentielles à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Afrique, MINUSCA, aux forces de la RCA ou aux troupes françaises comme spécifié au préalable par le comité des sanctions. Ridicule dans un premier regard, mais plein de sens si on regarde ceci de plus de près, on sanctionne l'institution la plus essentielle pour la sécurité du pays qu'est l'armée, mais laisse ouverte la livraison de provisions et de fournitures, etc. Le peuple africain n'est pas dupe, ce n'est pas pour acheminer de l'aide humanitaire, mais plutôt pour approvisionner les rebelles en armes et argent que l'ONU ne touche pas à ces domaines. Mais l'Occident oublie que la population centrafricaine est unie à son gouvernement et que c'est cette union qui a gagné face aux tentatives de déstabilisation, ce qui fait que Bangui ne pliera pas et continuera de préserver la souveraineté et l'intégrité de la Centrafrique. Au Mali, le premier ministre de la transition, Choguel Maïga, a présenté son plan d'action gouvernemental. Il s'est exprimé devant les membres du Conseil national de transition, qui fait actuellement office d'assemblée législative, lors d'une session extraordinaire. Relecture de l'accord de paix, renforcement des forces armées, élections transparentes. Luc Michel, géopoliticien, décrypte ce plan d'action.
C'est une remise à plat de la politique et de la société malienne. Et c'est la révolution malienne qui a été remise sur ses rails par les colonels pro-russes de Bamako. Choguel Maïga, il a longtemps été opposé à ceci parce qu'il était en désaccord avec les premières autorités de la transition, c'est-à-dire les pro-français qui avaient dévié la révolution du pouvoir, le président Badao et le premier ministre Mokhtarouane, qui ont été mis aux arrêts par la seconde prise de pouvoir des militaires. Il y a des réactions qui sont caractéristiques. Tout d'abord, les gens de la Zawat, les Touaregs, qui sont mécontents. Ce n'est pas un hasard si RFI leur donne la parole, parce que Paris, évidemment, n'est pas content du tout. Les durs de la révolution malienne, qui sont le mouvement Yeremolo, donc debout sur les remparts, qui a organisé les manifestations pro-russes, et auquel appartient celle qu'on appelle la dame de fer, Amina Fofana, donc qui est la plus radicale des révolutionnaires maliens et qui est actuellement députée au CNT, eux, ils ont manifesté hier leur satisfaction avec la décision de Choguel Maïga et le fait qu'elle allait dans le bon sens. Qu'est-ce qu'il faut retenir principalement? C'est la neutralisation de la corruption dans la vie politique, c'est-à-dire des éléments qui étaient liés à la France-Afrique, et notamment à Badao, Mokhtarouane, et surtout à l'ancien Premier ministre Ibeka. Vous noterez que des commissions d'enquête vont être établies en particulier sur les manifestants qui avaient été tués par Ibeka dans les premiers temps de la révolution malienne, lorsqu'il détenait encore le pouvoir. Ce qu'il faut retenir de principal, c'est la rectification des accords d'Alger. Qu'est-ce que c'était les accords d'Alger? C'était des accords imposés par la France, malgré le nom qu'il portait, Il s'agissait en fait de fédéraliser le Mali. La fédéralisation en Afrique, dans les plans occidentaux, les plans français et les plans américains, c'est en fait le premier stade à la sécession du pays. On propose la fédéralisation, par exemple, au Cameroun, les Américains. On a proposé maintenant au Soudan de continuer la fédéralisation après la sécession du Sud-Soudan. Et les Américains ont amené à la table de négociation non seulement le gouvernement et le mouvement pro-américain, mais aussi les sécessionnistes de deux provinces, le Darfour et le Kordofan. C'est la même chose au Mali que prévoyaient les accords d'Alger, c'est que 60% du pouvoir et du pays étaient remis au mouvement Touareg avec 60% des ressources. Comme par hasard, dans ce qu'on appelle l'Azawad, qui est le Nord Mali, ce sont en fait les réserves de gaz, de pétrole, de terres rares et surtout d'uranium du pays. L'uranium du Mali, il est essentiel à la France parce que vous savez que dans cette mare aux crocodiles qu'est le bloc américain occidental, s'ils sont tous complices en géopolitique, ils sont rivaux en économie. Les Américains de General Electric, ils sont en train de s'emparer des ressources du pétrole du Niger et les Français d'Areva, ils ont besoin d'une porte de sortie. La porte de sortie, c'est le Mali. Cette préparation de la sécession du pays, qui avait été encouragée par les Français, Barkhane avait remis les grandes villes comme Gao et Kidal au mouvement Touareg, dit islamiste modéré. En réalité, le drapeau qui flottait sur Gao et Kidal, ce n'était plus le drapeau de l'Azawad, et l'armée avait été éjectée. Lorsqu'il y a eu les premiers dialogues nationaux de la révolution malienne, il n'a pas été exercé à Gao et à Kidal, parce que les Touaregs n'étaient pas d'accord avec lui. Il a donc une rectification de ces accords. Discrètement, c'est l'enterrement de la fédéralisation du pays. Et bien entendu, vous noterez que Choguel Maïga précise qu'on va rétablir les bases sécuritaires et des bases d'assistance sociale, c'est-à-dire qu'on va dépouiller les Touaregs de ce qui actuellement fait leur force, c'est-à-dire l'absence de l'armée malienne, mais surtout le fait que les islamistes, comme dans toutes les zones où les islamistes sont au pouvoir, ils s'emparent des services sociaux et de l'administration sociale et ils encadrent la population. C'est contre cela qu'on va combattre. La deuxième grande mesure, évidemment, elle va dans un sens que moi, je considère moins favorable, mais il n'y a pas le choix internationalement, c'est l'organisation d'élections transparentes et inclusives dans les délais. Avec les patriotes maliens, moi, je pense que la période de transition ne devait pas durer 18 mois, mais qu'elle devait durer de 3 à 5 ans. Et c'est basé dans la position de Yérémolo. Mais il n'y avait pas le choix à l'international, puisque le Conseil de sécurité, où la France est influente, et n'est pas totalement neutralisée sur le Mali par les Russes et les Chinois. Le Conseil de sécurité y a donc encore tout à dire, y compris la CEDEAO, etc. Et l'abandon des sanctions de la CEDEAO, inspirées par la France et l'Union européenne, elle n'a été possible qu'en tenant les promesses, justement, sur la transition la plus courte possible. Voilà ce qui arrive, c'est donc une stabilisation. On voit donc que les colonels maliens et en nommant un premier ministre civil, ils ont débloqué la situation politique. Maintenant, il reste à débloquer la situation militaire. Il y a eu à Moscou, il y a 3 semaines, il y avait la conférence internationale de la sécurité à Moscou. Il y a eu une série d'accords militaires signés avec les colonels maliens, notamment avec Assimi Goïta, qui est un officier formé en Russie et qui est anti-français. Il y a eu des accords semblables qui ont été signés d'ailleurs avec d'autres pays, avec la ministre de la Défense tchadienne notamment. Et donc, maintenant, ce qu'il faut attendre, on parle de l'arrivée des firmes de sécurité russes au Mali. Il y a eu hier matin un grand numéro du mois d'août du magazine Jeune Afrique, la diplomatie internationale. Il y a donc un numéro qui a été consacré au groupe, comme ils appellent, aux firmes de sécurité russes, c'est-à-dire le groupe Wagner. Dedans, j'y ai été à nouveau avec le directeur d'Afrique Média, dénoncé comme les principaux propagandistes de la Russie en Afrique, mais on évoque à mon couvert l'arrivée des firmes de sécurité au Mali. Donc, il faut comprendre que cette fois-ci, définitivement, la révolution malienne a été remise sur ses rails.
Le président directeur général du groupe Sonel Gaz, Shaer Boulahras, a affirmé mardi à Nouakchott en Mauritanie l'engagement de l'Algérie à travers le groupe Sonel Gaz à soutenir la République islamique de Mauritanie dans sa reprise économique, de par le positionnement efficace de son entreprise sur la carte de l'économie nationale, l'habilitant à occuper une place de leader au plan continental. Au deuxième jour de sa visite à Nouakchott, M. Boulahras a présidé une réunion de haut niveau avec son homologue de la Société mauritanienne de l'électricité, Somelec, et nombre des principaux cadres dirigeants des deux groupes énergétiques, indiqué mardi un communiqué du groupe Sonel Gaz. Dans son allocution d'ouverture de la réunion, M. Boulahras a fait part de la disponibilité de ce groupe en tant qu'acteur spécialisé dans l'énergie, disposant d'une expérience avérée et d'un important potentiel humain et matériel, à ouvrir le champ de la coopération bilatérale, conformément au principe gagnant-gagnant avec la partie mauritanienne, ajoutant que le groupe aspire à ce que l'Algérie contribue efficacement à la reprise économique de la Mauritanie, de par son positionnement efficace sur la carte économique nationale, l'habilitant à occuper une place de leader au plan continental. Le Cameroun veut restaurer son couvert forestier et mettre en place une industrie du bois durable capable de produire 2,5 millions de mètres cubes de bois issus de forêts plantées. Le projet a le soutien de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le Programme national de développement des plantations forestières qui a officiellement lancé ses activités le 23 juillet 2021 se donne pour ambition de produire, à partir de 2045, l'essentiel des 2,5 millions de mètres cubes de bois que le Cameroun met sur le marché chaque année. Pour réaliser cette performance, au cours des 25 prochaines années, le PNDF a besoin globalement de 12 893 milliards de francs CFA. Cet investissement contribuera notamment à l'atteinte de l'objectif de restauration de 12 millions d'hectares de forêts victimes de la forestation et de la dégradation favorisée entre autres par la construction des infrastructures de développement ou des agro-industries, ce qui représente plus de la moitié des 22 millions d'hectares de forêts qui couvrent 46% du territoire camerounais. Une nouvelle étude réalisée en Côte d'Ivoire par l'Impact Institute pour le compte de FETRA révèle que les producteurs de cacao FETRA en Côte d'Ivoire ont augmenté leurs revenus de 85% au cours des dernières années et qu'une plus grande proportion vit au-dessus des seuils de pauvreté extrême. Leur revenu annuel moyen des ménages de producteurs de cacao ivoiriens est passé de 2 676 en 2016 à 4 937 en 2020-21, soit une augmentation de 85% en 4 campagnes. En parallèle, un nombre important de producteurs ivoiriens de cacao sont sortis de l'extrême pauvreté, avec 61% des ménages de producteurs dans l'étude actuelle vivant au-dessus du seuil d'extrême pauvreté, contre 42% sur la base des données collectées en 2016-17 et publiées en 2018. Le Programme des Nations Unies pour le Développement dévoile les résultats de son concours sur le développement d'initiatives innovantes en matière de gestion des déchets dans les écoles secondaires au Ghana. Les trois lauréats ont reçu des primes d'un montant total de 9 000 $, soit environ 54 000 cédis ghanéens. Inciter au changement de mentalité à partir des banques d'école pour une attitude plus responsable à l'âge adulte. C'est l'objectif du Programme des Nations Unies pour le Développement qui a l'initiative d'un concours sur la gestion durable des déchets au Ghana. L'organisme multilatéral de développement de l'Organisation des Nations Unies, dont les missions sont l'éradication de la pauvreté et la réduction les inégalités et l'exécution, a publié les résultats de cette compétition le 28 juillet 2021 Sur 30 projets verts présentés par les écoles secondaires du Ghana, seuls 3 ont fait l'unanimité auprès du jury. Le Boissy Senior High Technical School a quant à elle proposé un prototype fonctionnel de poubelle pour le tri automatique des déchets.